c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Chute, on écoute la télé avec l'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et l'Angélis, c'est maintenant 3 boutiques à Royan, Paris et Bordeaux.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Comme chaque lundi à 13h et mardi à 19h, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude, votre radio en Charente. Pendant une heure, on va passer en revue toute l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors détendez-vous, on s'occupe du reste. Voici tout de suite le sommaire de cette semaine.
Chute, on écoute la télé, le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé. Pour commencer cette émission, nous allons recevoir dans une poignée de secondes Cécilia Cara, l'interprète inoubliable de Roméo et Juliette, viendra nous parler du téléfilm diffusé samedi sur France 3, Le Prix de la Trahison, où elle partage l'affiche avec Juliette Chen et Mimi Mati, et en plus tournée dans notre belle région de Nouvelle-Aquitaine. Nous recevrons également Maud Baker, elle sera l'affiche de L'Amour Presque Parfait, la nouvelle mini-série de Pascal Pouzadou, qui sera diffusée mercredi sur France 2. On en parle avec Maud, on parlera évidemment aussi de Demain nous appartient et de tous ses projets pour 2022, et Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Et puis large partie de cette émission, c'est l'événement aujourd'hui avec notre coup de cœur ciné cette semaine consacrée au 50e film de Claude Lelouch, L'amour c'est mieux que la vie. Et l'événement, c'est dans Chute on écoute la télé avec Claude Lelouch, Philippe Lelouch et Kev Adams qui seront nos invités exceptionnels. Un rendez-vous à ne pas manquer dans moins de 15 minutes. Alors vous l'avez compris, ça s'annonce chargé, événement encore une fois aujourd'hui. Alors tout de suite, voici Cécilia Cara qui débarque dans Chute on écoute la télé. C'est nos coups de cœur télé de la semaine, juste après un petit extrait du Prix de la Trahison.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Bon, Juliette, c'est encore Marie, réponds-moi s'il te plaît, rappelle-moi. Non, elle peut jamais être à l'heure, Juliette.
T'inquiète pas, ma chérie, elle va arriver.
Oui, mais c'est elle qui apporte les fleurs, les invités vont arriver avant elle.
Juliette est sur la route, c'est normal qu'elle décroche pas. Bon, je retourne à la cuisine.
Oui, en même temps...
En même temps, c'est Juliette, maman.
Oui, mais pour nos 35 ans de mariage, elle aurait pu faire un tout petit effort. Le fleuriste, il est à côté de chez elle sur sa route.
Non, mais je vais aller chercher tes fleurs, maman.
Voilà, c'est vrai.
Mais oui.
Oh, merci, mon chéri.
Allez, nouveau volet du prix de la... Et là, c'est le prix de la trahison. Tourné chez nous, en plus, dans notre belle région de Nouvelle-Aquitaine, avec Mimi Mati, qu'on va pouvoir suivre cette semaine sur France 3. On a de la chance, puisqu'on a une des actrices qui est avec nous, Cécilia Cara, qui joue aussi dans ce troisième opus. Bonjour, Cécilia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc là, c'est pas en tant que chanteuse qu'on te retrouve, mais en tant que comédienne, aux côtés de Mimi Mati. J'imagine déjà un beau souvenir pour toi.
Oui, c'était un super tournage, et puis j'étais ravie de retrouver Mimi, puisqu'on avait eu la chance de faire un Joséphine Ange Gardien il y a à peu près 10 ans de ça, qui s'appelait La Chasse aux Fantômes, qu'on a tourné à Prague. Et donc 10 ans après, on se retrouve sur ce nouveau téléfilm, et ça a été vraiment un bonheur. Et puis l'équipe était top, l'équipe était vraiment top, et puis on a tourné à Angoulême, et c'est quand même une très jolie région.
Alors Cécilia, je crois que tu joues sa belle-fille, c'est ça hein?
Exactement, je joue la belle-fille de Mimi Mati, dont le fils va être accusé du meurtre de sa maîtresse, et évidemment on va quand même soupçonner sa femme. Donc moi, et c'est un très très chouette épisode. Voilà, c'était vraiment très très cool à faire, et j'ai hâte de voir le résultat.
Comment tu la définirais, cette belle fille? Comment tu définirais Sandra, toi?
Alors Sandra, elle vient d'accoucher, c'est une jeune maman, voilà, qui est chamboulée par tout ce que l'accouchement peut engendrer, et qui va entrer dans une dépression, et qui va cacher ça, voilà, à sa belle famille, à son mari, et voilà, c'est une jeune femme humaine, j'ai envie de dire, qui se retrouve entre sa vie active, et sa vie professionnelle et sa vie de maman, et voilà, qui va être un petit peu prise par tous ces événements et toutes ces émotions, et qui va essayer de se débattre comme elle peut. Voilà, c'est quelque chose de très qui peut arriver à tout le monde, et voilà, c'est une femme. Après, je vais pas trop vous en dire parce que je vais pas spoiler non plus. mais c'était vraiment un plaisir d'interpréter ce personnage très très sensible.
Est-ce qu'il y a une scène particulière qui reste en mémoire pour toi sur ce film? Je crois que ta première scène que t'as tournée, fallait que tu pleures énormément.
Alors oui, j'ai commencé par ma scène la plus difficile, c'est-à-dire effectivement, il fallait que... C'était une scène avec Mimi, toutes les deux assises à la table d'un restaurant. Et il y avait 80 figurants autour qui attendaient en silence et j'avais à peu près... Enfin, la scène évoluait et montait en puissance et il fallait que je me mette à pleurer au bout de quelques secondes. Et c'était... pour entrer comme ça dans un tournage, c'était
une entrée en matière particulière.
C'est ça, il fallait être tout de suite dedans. Heureusement, l'équipe était vraiment géniale. François Guérin, le réalisateur, était extrêmement bienveillant. Toute l'équipe était top. Mimi, elle a été extraordinaire, ben, comme à chaque fois que j'ai eu l'occasion de travailler avec elle. Donc voilà, c'était une super expérience. Je pleure pas mal dans ce film, donc ça m'a beaucoup aussi entraînée à ça. Et voilà, et il y a aussi une scène dans la cuisine, un moment où j'ai une scène avec Mathieu Delarive, qui est le collègue de Mimi et qui va justement un petit peu m'interroger style d'Aurélien. Et je suis en train de couper des oranges et pendant la scène, je me coupe le doigt, vraiment. Du coup, je mets ma main dessus parce que ça commence à couler, enfin à pisser le sang un petit peu. Et voilà, et on a joué la scène et en fait, personne s'est rendu compte de rien et je crois que c'est la scène qu'ils ont gardée. On va voir. Mais voilà, donc du coup, je me suis bien entaillé le doigt pendant cette scène. Mais c'est normal, j'étais un petit peu stressée. Il venait m'interroger.
Bah oui. Cécilia, on imagine peut-être, on espère en tout cas, s'il y a un quatrième opus, que tu fasses partie de l'aventure. Parce qu'il y a un peu le cercle familial autour du personnage de Mimi qui est en train de se mettre en place et la belle-fille. On peut-être estimer qu'elle revienne dans un quatrième opus, s'il y en a un.
Alors ça, oui, je ne sais pas. C'est vrai que ça a été évoqué maintenant. Oui, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup retrouver toute cette famille. Voilà, que ce soit Juliette Chen, Mathieu Coniglio, Patrick Reynal aussi qui fait le mari de Mimi. C'est un groupe de comédiens incroyables avec qui j'ai eu beaucoup de bonheur à tourner.
Et puis en ce début d'année 2022, on va te retrouver aussi en tournée partout en France pour fêter bien le meilleur des comédies musicales aux côtés de Damien Sargue, Merwan Rim et plein d'autres, où tu vas être justement sur scène pour fêter un peu, on va dire, cet anniversaire de comédie musicale, les 20 ans de Roméo et Juliette, des autres, les 10 commandements, toutes ces belles comédies musicales qui nous ont bercés pendant tant d'années.
Et oui, ça va être l'occasion de se retrouver pour passer un bon moment ensemble, revoir les grandes chansons des comédies musicale, retrouver Damien et certains collègues de comédie musicale aussi pour passer un agréable moment ensemble musical, en hommage à la comédie musicale.
Et ça va passer par Bordeaux notamment et par Nantes, mais bien sûr il y a des dates partout en France que vous pouvez découvrir et notamment sur ton Facebook officiel où tu as déjà publié toutes ces dates-là. Cécilia, il y a aussi l'album Paris-Bogota en vente, en vinyle, en CD aussi, que moi je conseille vraiment. Et d'ailleurs, pour se quitter, eh bien, tu vas nous en offrir un extrait de Paris Bogota, de cet album, dans un tout petit instant.
Avec grand plaisir, oui, cet album qui me tient tant à cœur et ça se passe très bien. On est en train de préparer la tournée de concert aussi pour 2022 et j'ai hâte de pouvoir interpréter mes chansons, aller à la rencontre du public, pour des concerts ensoleillés.
Merci à toi d'avoir été avec nous une nouvelle fois, Cécilia. On te dit à très très bientôt.
À très vite, avec plaisir.
Et dans un instant, notre spécial 50e film de Claude Lelouch, Philippe Lelouch et Kev Adams nous rejoignent pour notre spécial L'amour c'est mieux que la vie. Le film sort mercredi dans les salles. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. La télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Coup de cœur ciné consacré cette semaine à L'amour c'est mieux que la vie, qui sort dans les salles, le 50e film de Claude Lelouch. Claude Lelouch, Philippe Lelouch et Kev Adams sont nos invités aujourd'hui. Claude, première question évidemment, 50e film, c'est quand même un événement et surtout aussi des rétrospectives dans ce film, on voit d'anciens extraits. C'est beau de faire justement ce 50e film en nous remémorant des mémoires cinématographiques incroyables.
J'ai le sentiment d'avoir fait un seul film en fait. J'ai le sentiment d'avoir créé une famille d'acteurs, d'amis, de gens que j'avais envie de fréquenter un peu plus que d'autres. Voilà. Et c'est vrai que comme je suis un peu dans le positif, j'ai essayé de créer autour de moi pendant ces 60 ans de cinéma des hommes et des femmes qui m'ont dit oui. Vous savez, bon, je remercierai jamais assez tous les gens qui m'ont dit non. Ça m'a permis de trouver ceux qui m'ont dit oui. Et c'est avec ces oui que j'ai pu faire 50 films, voilà. Et donc, je me suis aperçu, en faisant évidemment un flashback sur toutes ces années de cinéma, cette grande histoire d'amour que je mène avec le cinéma, je me suis aperçu que les hommes et les femmes que j'ai filmés appartenaient finalement à une catégorie qui m'avait marqué dès mon enfance. J'ai lu Les Trois Mousquetaires quand j'étais tout petit, ça m'a influencé fortement. Le panache, le courage, tout ça, ça m'a toujours intéressé. Et c'est vrai que dans plusieurs de mes films, on a retrouvé Les Trois Mousquetaires. Dans L'Aventure, c'est l'aventure. Et dans le dernier film, où j'ai reformé les trois copains qui ressemblent aux mousquetaires d'aujourd'hui, voilà. Et puis j'avais envie aussi de rendre hommage à toutes ces histoires d'amour que j'ai filmées. Mais c'est vrai que Roméo et Juliette, quand je l'ai lu quand j'étais gosse, a marqué mon esprit. Je pense que Shakespeare a frappé très très fort. Il est allé tout de suite à l'essentiel et j'avais envie de filmer un Roméo et Juliette qui aurait pris de la bouteille, qui aurait eu la chance de vivre plusieurs histoires d'amour, car on peut pas parler d'amour si on n'a pas essayé plusieurs modèles. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. L'amour, c'est y a rien de mieux et c'est vrai que c'est comme une drogue. On peut aller d'une histoire d'amour à une autre histoire d'amour à condition que ce soit un peu plus fort à chaque fois. Et il y a un problème d'addiction comme ça. Et donc, ce couple, Gérard Darmon et Sandrine Bonnerve, me semblait idéal pour parler d'un homme et d'une femme qui, après avoir vécu une vie, savait de quoi y parler. Voilà. Et puis, je vous ai cité les Trois Mousquetaires, je vous ai cité Roméo et Juliette qui ont influencé. Et puis, je vais vous parler de Victor Hugo, évidemment, Les Misérables, et qui, avec ce plus beau livre, qui est pour moi le plus beau livre du monde, m'a tout de suite fait comprendre à quel point il y avait des miséreux, à quel point il y avait des gens un peu plus malheureux que d'autres, un peu plus courageux que d'autres, un peu plus lâches que d'autres. Voilà. Et donc, finalement, je me suis aperçu que les personnages de mes films ressemblaient aux héros de ces trois livres. Dans la vie, on a tous les qualités de nos défauts. Et c'est cette certitude que j'ai voulu filmer avec ce 50e film. Et puis j'ai voulu parler du rationnel et d'irrationnel, qui est la grande dualité que nous avons tous avec nous-mêmes. Et donc c'est cette dualité qu'il y a chez chacun d'entre nous que j'ai voulu filmer en gros plan à travers le portrait d'un homme qui va bientôt nous quitter et qui fait plus confiance à sa part d'irrationnel. Et comme c'était des sujets importants, on a essayé de les traiter simplement, dans la bonne humeur, avec des personnages qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Voilà, donc j'ai essayé de faire une petite synthèse de ces 80 ans d'existence, 60 ans de cinéma, 50 films, en tournant avec des acteurs qui seraient disponibles, qui aiment mon cinéma, qui me font confiance, et avec lesquels j'ai pu effectivement gratter les croûtes, leur joie. Ils m'ont fait cadeau de leur vie, ils m'ont tous fait cadeau de leur enthousiasme. Voilà, donc j'ai formé une petite famille d'acteurs que vous avez pu voir dans le film, qui ont joué le jeu. Voilà, donc j'ai eu le sentiment de filmer un petit moment de vie. Et donc je me suis bien amusé à faire ce 50e film.
Philippe, quand on s'appelle Lelouch et qu'on tourne dans le 50e film de Claude Lelouch, ça fait quoi? Ça représente quoi pour vous?
C'est à peu près tout, parce que moi j'ai une histoire très particulière avec ça. C'est-à-dire que mon père, mon frère et moi, Gilles, s'appelait Claude Lelouch. Voilà. Donc on a toute notre jeunesse était prise pour les fils du metteur en scène à l'époque où Internet n'existait pas, etc. Donc tout le monde était convaincu que j'étais le fils de Claude Lelouch, mais pas de celui que les gens imaginaient. Donc j'avais l'impression de faire un demi-mensonge, vous voyez. Mais je m'en suis servi tellement. C'est-à-dire que je faisais croire à la police quand ils m'arrêtaient, quand j'ai eu mon permis, que j'étais le fils de mon père et qu'ils m'attendaient sur un tournage. J'ai sauté 6 mois d'armée grâce à ça, etc., etc. Donc j'ai commencé par mentir sur mon identité et m'inventer une filiation avec Claude. Alors peut-être pour, je sais pas, il y a eu tout un mélange de choses, peut-être par homonymie, peut-être pour un peu moins mentir, enfin, peut-être pour un peu tout ça. Très très jeune, j'ai été baigné avec les films de Claude. Et mon frère et moi d'ailleurs. Et j'ai été fasciné par ce cinéma, c'est pour ça que je vais rebondir sur ce que disait Claude, qu'il faut y aller avec ses enfants, parce que je crois qu'enfant, je dis bien je crois, j'étais déjà sensible à ce qu'il racontait. je comprenais ce que ça voulait dire. C'est-à-dire partir, revenir, ce film-là où j'étais quand même assez jeune quand je les ai vus, je comprenais tout ça, les uns et les autres. Jusqu'au moment où j'ai été adolescent, où j'ai dragué avec les films de Claude, j'emmenais des filles voir les films de Claude, et je disais, si tu comprends ça, alors tu comprendras ce que je suis, ce qui était une prétention absolue. Enfin bref, je crois au fond du fond que je suis devenu acteur pour jouer dans ces films. C'est-à-dire que vraiment, c'était... Je me souviens, on parlait souvent de ça avec mon frère, j'ai entre Spielberg, Lucas et Lelouch, je prendrais Lelouch si j'avais le choix. Donc, vous dire aujourd'hui ma joie et mon plaisir, c'est presque indescriptible. Mais parce qu'en plus, j'avais cette conscience que Claude choisissait des acteurs qui lui correspondaient. C'est-à-dire que je pense que tout être humain devrait être compatible avec Claude Lelouch, alors a fortiori les acteurs. Sa façon de travailler, elle est intense, elle est spéciale. Mais elle est tellement jouissive. Il sait aller chercher le meilleur de vous. Je sais pas comment il se démerde. On ne peut pas tricher avec lui. C'est-à-dire que c'est, je le disais hier à d'autres journalistes que vous, il m'arrive, à un bout d'un moment, on maîtrise un peu son art. Il y a des fois où, comme tous les acteurs, j'ai des trucs. Des trucs qui passent très très bien partout, hein. C'est-à-dire tout d'un coup, pour gagner du temps, je vais faire un jeu d'acteur qui va être à peu près ce que veut le metteur en scène. Lui, quand j'essaye ça, il le voit tout de suite. Et il arrête la prise, il me dit, non, mais là, t'as joué. Ça me rend fou. Je me dis, comment il voit ça? Comment il a vu ça, puisque personne ne le voit? Voilà. Donc, il va chercher. Il a une formule formidable qui s'appelle la spontanéité, celle qu'il cherche. Et il dit, Claude, je prends ces mots. La spontanéité, c'est pile entre la vérité et le mensonge. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime la spontanéité chez les acteurs. Donc, il se débrouille pour aller chercher ça. Donc, ça a été un long travail. J'ai attendu longtemps ce coup de fil. On a fait deux films, les deux précédents films de Claude. J'intervenais un peu. J'étais déjà très fier. Celui-là, j'interviens un peu plus. Puis, j'espère que j'interviendrai encore plus dans le prochain. Bah, c'est indescriptible comme joie, voilà. Mais je pense, comme tous les acteurs et les actrices de France, il y en a pas un, je pense, qui va vous dire non, tourner avec Claude Lelouch, ça m'intéresse pas. Donc, si vous voulez, il y a une forme de consécration franco-française, mais qui pour moi est internationale, parce que quand on voit le respect qu'ont les réalisateurs américains pour prendre cela, puisque c'est les plus connus pour Claude, je me dis bon, bah, quand on tourne avec Claude, ça veut dire un truc, ça vaut un César. Vous voyez ce que je veux dire? C'est même mieux qu'un César. C'est à un moment, il a posé son doigt sur vous et il dit allez, viens. Donc voilà. Donc je suis très très fier de ce film, mais comme de tous ces films. Je pense qu'on peut trouver dans 50 films, il peut y avoir des films que le public trouve moins réussis, c'est possible. Mais il n'y a jamais, même dans les films moins réussis de Claude, de mauvais acteurs. Donc quand il vous choisit, voilà, on a l'impression d'être élu. Il vous emmène n'importe où, Claude. Je sais que demain, il me dirait, écoute, j'ai une idée de film sur le Botin, on y va. Parce qu'en fait, Kev racontait un truc hier, Kev Adams, très joli, il lui disait, mais j'ai pas reçu le scénar, Claude. Trois fois, il lui demande le scénar, il dit, ouais, je te l'envoie. Bon. Et au bout de la troisième fois, il dit, mais j'ai toujours pas reçu le scénar. Et Claude lui a répondu, mais c'est pas grave, tu me fais confiance. Alors Kev lui dit, oui, bah, il dit, moi, je la connais, l'histoire. Voilà. Et ça, c'est sa façon de travailler. Il est le seul au monde à travailler le son de cette façon-là. Je vous donne un exemple. Quand on fait une scène où il y a beaucoup de monde, un feu d'artifice, une boîte de nuit, etc. 99% des réalisateurs vous font parler comme ça pendant la prise, parce qu'ils savent qu'après, il y aura du bruit. Vous voyez? Donc, pour avoir l'air naturel. Lui, il fait exactement tout le contraire. Il vous fait parler comme ça, et il assourdit le son autour. Ce qui veut dire qu'on a des scènes où il y a plein de gens qui font la fête, et il y a un couple d'amoureux qui se parlent, et ça donne une intensité folle, parce qu'on les isole du monde. Et je vais vous dire un truc, c'est aussi un rappel à l'humilité quand on fait ce métier, parce que la vedette d'un film de Claude Lelouch, c'est Claude Lelouch. Ben voilà.
Claude, c'est quoi votre recette pour rester positif en toutes circonstances, et surtout encore plus en ce moment?
Cette certitude que j'ai de que le mal est l'inventeur du bien. Je veux dire que si on regarde toutes les grandes catastrophes de l'humanité ont été positives. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout ce qui nous fait mal, à un moment donné, nous fait du bien. C'est cette observation. Je veux dire que ce soit les catastrophes naturelles, que ce soit les folies des hommes, les guerres, la Shoah, enfin, tout ce qu'on a vu quelque part, le genre humain le transforme en positif. Je veux dire que le monde d'aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus agréable que tous les mondes qu'on a connus avant. Avant le Covid, on ne savait pas qu'on était heureux. Vous voyez? Et donc, le Covid nous a dit, regardez, vous étiez heureux, vous vous rendiez pas compte. Alors, on nous a donné un petit coup de pied au cul avec ce Covid qui, pour la première fois, a touché le monde entier. Jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'il y avait des problèmes, certains pays étaient épargnés. Et là, non. Là, tout le monde a été touché. Et pour la première fois, la Terre entière parle la même langue, celle du Covid. Et donc, on a un point commun, et à partir de ce point commun, on va peut-être faire des gros progrès. on va peut-être comprendre les angoisses des autres. Je pense que pour tous ceux d'entre nous qui vont passer à travers cette saloperie, à travers ce Covid, c'est une chance de réinventer un monde nouveau. J'espère que pour mes enfants, mes petits-enfants, c'est une chance. Mais il faut la saisir. Donc pourquoi je suis positif ? Parce que tout ce que j'ai réussi dans ma vie, j'ai d'abord raté. Donc je sais à quel point l'échec est la plus grande école du monde. À quel point la sueur, la souffrance fabriquent les hommes. Vous voyez, c'est très dur d'expliquer à des enfants qu'il faut passer par la merde pour avoir droit au soleil. Voilà. Et donc j'ai fait ce film pour mes enfants et mes petits-enfants. J'espère que toutes les générations iront voir ce film, parce que en vrac, hein, je dis bien, tout ça est en vrac, mais c'est vrai que je suis positif. Je suis positif parce que pour l'instant, j'ai assisté à la Deuxième Guerre mondiale, avant, après, pendant. J'ai assisté à la guerre d'Algérie, j'ai assisté à la guerre du Vietnam, j'ai assisté à tous les grands événements. Et le genre humain a besoin de ces crises pour, à un moment donné, apprécier les choses. Voilà, donc c'est parce que je sais que le pire n'est jamais décevant que je suis optimiste.
Et en fait, aujourd'hui, le 50e film de Claude Lelouch, L'amour c'est mieux que la vie, qui sortira donc dans les salles mercredi. Claude Lelouch, Philippe Lelouch et Kev Adams sont nos invités. On va écouter la bande-annonce, si vous voulez bien. Et puis on revient juste après avec vous.
Au début, nom, prénom, date et lieu de naissance. Jésus, c'est
bon. Je suis né il y a un peu plus de 2000 ans.
Mais vous êtes qui ? Ben, je suis Jésus.
Et le paradis, il est où dans tout ça ?
C'est vous qui transformez le paradis en enfer.
Bien voilà, l'enfer, c'est moi. Je suis là pour te pourrir la vie. Et comme ça, un jour, tu l'apprécies. Et vous voulez quoi au juste ?
Notre ami, il va bientôt nous quitter. Et nous, on aimerait lui offrir sa dernière histoire d'amour.
Et pas faire des gueules entièrement comme ça. Attends, hein.
C'est une mauvaise imitation de De Niro, voilà ce que je veux dire. De Niro, c'est ça, De Niro.
De retour pour notre spécial L'amour c'est mieux que la vie, le 50e film de Claude Lelouch. Claude Lelouch, Philippe Lelouch et Kev Adams sont nos invités aujourd'hui. Claude, est-ce que vous songez à un moment donné à vous arrêter ?
Écoutez, oui, parce que à l'âge que j'ai, les statistiques nous expliquent qu'à un moment donné, les choses vont. Donc j'aimerais ne pas faire le film de trop. Et puis j'aimerais finir comme j'ai commencé avec le cinéma d'amateur. Je voudrais que mes derniers films soient vus que par mes copains. Voilà, que, vous voyez, mec, retourner au cinéma d'amateur d'où je suis parti. J'ai envie de faire la boucle complète. Et donc, avec cette trilogie, j'ai envie de dire merci au public, vous voyez, et au revoir aux grands cheveux.
Malgré tout, c'est le premier film d'une trilogie, d'un projet de trilogie. On continuera du coup, si ce film marche, à retrouver nos héros de ce film de l'amour. C'est mieux que la vie, dans un deuxième et un troisième film par la suite.
Oui, absolument. C'est les héros du premier film, c'est la base de ce film. C'est le... Donc on va les retrouver. Même Gérard Darmon. Et donc on va retrouver Mais dans la deuxième, il va y avoir de nouveaux comédiens qui vont arriver. Et dans la troisième aussi. Il y aura un final, je crois, intéressant. Voilà.
Claude, le choix de Sandrine Bonnaire et Gérard Darmon ?
Ben, Sandrine Bonnaire, d'abord, je l'ai vue dans les films des autres. Il faut reconnaître qu'elle est touchante, bouleversante, chez Piala, chez Varda. C'est une vraie nana, quoi. Et puis, j'ai tourné avec elle dans le salon en thème avec Johnny Hallyday. Donc, j'ai vu à quel point son sourire éclairait le film. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pour ce film, elle s'est imposée très vite. Darmon est arrivé beaucoup plus tard. Mais quelle bonne idée, parce que lui aussi avait le sourire et les rides qu'il fallait. Je veux dire que cette histoire d'amour repose sur des rides. Ils savent que leur histoire est limitée dans le temps. Donc, ils vont se concentrer uniquement sur le plaisir de l'amour, c'est-à-dire sur cette générosité qui fait qu'à un moment donné, on est capable d'aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même. Voilà. Et donc, c'est tout ça que j'aime, que j'essaie de filmer. C'est pour ça que les mecs de l'aventure, c'est l'aventure. C'était normal que Lino Ventura fasse une femme comme Sandrine Bonnaire. Vous voyez, je trouve ça formidable que Robert Hossein ait eu comme fils Gérard Darmon, et dans la deuxième et troisième partie, vous allez avoir de belles surprises. Voilà. Cette trilogie, c'est un arbre généalogique de mes 50 films.
Alors Claude, ce film, c'est aussi un bel hommage à Robert Hossein, vous lui avez fait tourner ici son dernier rôle ?
Bah écoutez, ça a été, d'abord c'était le premier jour de tournage du film. Et on savait, il était en pleine forme, hein. Enfin, il était pas, quand il a tourné avec nous, il est venu à Paris, il a pris la voiture avec sa femme, ils sont venus. Et bon, on pensait qu'il allait encore jouer les prolongations, et puis j'avais prévu qu'il soit aussi dans la deuxième partie, donc. Et c'est vrai que c'était bouleversant de tourner avec lui. Les scènes entre Gérard et Robert sont magnifiques parce que c'est le premier jour de tournage. Un premier jour de tournage, on se dit, est-ce que les miracles vont avoir lieu ? Est-ce qu'on a bien fait de se lancer dans ce film ? Et c'était bouleversant de voir Gérard et Robert jouer ensemble. Voilà, donc je me suis beaucoup amusé, et puis il nous a quittés. Et c'est fou parce qu'il assiste à l'enterrement de son... On a eu le temps de tourner l'enterrement, il était là, tu te souviens ? Voilà, donc... c'est quelqu'un qui a joué un rôle important dans le cinéma, dans le théâtre, qui a laissé des traces, de très belles traces, vous voyez ce que je veux dire ? On est ravis de lui avoir rendu hommage avec ce film. C'est son dernier film.
Claude, vous avez choisi Xavier Imbona et Béatrice Dalle pour incarner Jésus et le diable. Mais quelle bonne idée.
Encore une fois, c'est les ricochets de la vie qui ont fait que... Alors, Xavier est un de mes élèves aux ateliers de Beaune. Et c'est un garçon qui, chaque année, se tape la route de Compostelle. Et c'est Jésus. Il est vraiment... Et dans la vie,
rêve de jouer ça,
ouais, il rêvait de jouer Jésus, et dans la vie, c'est un Jésus. Je veux dire que c'est un homme d'une gentillesse. Il est vraiment. En plus, il est arrivé chez moi aux ateliers, vous voyez, il a fait un concours, il est passé, il est metteur en scène, il est acteur. C'est un garçon formidable, et donc je l'ai connu. Et alors, évidemment, le diable, c'est Béatrice Dalle, quoi. Un diable rock'n'roll, je pourrais pas trouver mieux, quoi. Je veux dire qu'elle est, elle est, elle est géniale, elle est cache, elle dit les choses, elle a pas peur, dire je vais te pourrir la vie, etc. Et comme elle a de l'humour et de la tendresse, le diable est vachement sympathique. Mais Dieu, c'est quand même du boulot, hein. Lui, il est exigeant, il veut que vous soyez premier en classe. Et donc, c'est toutes ces contradictions que j'ai essayé de mettre dans ce film, quoi.
Philippe, on va évoquer meilleurs souvenirs de tournage. Peut-être ce film, ce qui est une anecdote particulière à nous raconter.
Il y en a plusieurs, parce qu'on a beaucoup, beaucoup ri. C'est-à-dire que Claude, soudainement, il a des idées de scène. Donc tout à coup, par exemple, je me souviens avec Harry au sauna, il a dit si les mecs allaient prendre un sauna, quoi. Donc c'était pas du tout prévu. Donc on s'est installé au sauna, moitié à poil, Et là, il se trouve qu'il avait, il jouait avec la vie, Harry, à ce moment-là, parce qu'il me dit, t'as pris du poil, ce qui était vrai. Je lui dis, non, pas du tout, pourquoi? Voilà. Et on est parti sur un truc, et là, Claude, il est en jubilation, parce qu'il sait qu'on est en train de tenir un truc. Voilà. Mais il joue avec tout. Avec l'instant du moment, il nous voit, je sais, il nous a raconté pour prendre un film que vous connaissez évidemment, qui est Itinéraire d'un enfant gâté. Il a senti dans la scène du bonjour que tout le monde a retenu ce jour-là quand Conina et Belmondo étaient prêts à tourner ce genre de scène. C'est-à-dire que c'est là où c'est extrêmement compliqué de tourner avec lui, parce que vous pouvez avoir le premier rôle en démarrant et vous retrouvez à la fin quasiment inexistant dans le rôle. C'est-à-dire que le casting, il continue pendant le film. Moi, je sais, par exemple, que Claude, quand il fait « C'est bien, les chéris, on passe au plan suivant », c'est qu'on s'est vautré. Hein. C'est qu'on n'a pas eu ce qu'il voulait. Donc voilà, il y a un investissement. Hier, Gérard disait, quand on finit un film de Claude, on est lessivé. Parce qu'effectivement, il nous opère à cœur ouvert en permanence. Donc on est obligé, quand on fait son film, faut pas faire autre chose. C'est vraiment le seul conseil que je peux donner, parce que... voilà, c'est donc des scènes merveilleuses comme ça, on en a eu plein. Il y a la scène du cimetière où il y avait quelque chose de magique. Je sais pas pourquoi ce jour-là, Montmartre, il se passait, il y avait une atmosphère particulière. Il y a évidemment la scène du couscous où il ne me dit pas, je ne sais pas trop ce que Gérard va nous dire. Et quand Gérard commence à nous aborder en disant ce que vous savez qu'il dit dans le film, j'ai été attrapé. Donc l'émotion n'est pas feinte. J'en ai une vraiment, parce que c'est mon copain dans la vie. Donc quand il me dit des choses pareilles, et il le dit avec un tel parfum de vérité, qu'évidemment des émotions surgissent, etc., etc. Donc c'est une succession de... En fait, pour répondre à votre question, une succession de bons souvenirs sur ce film. Et j'ai qu'une hâte. Jamais de ma vie, j'ai autant espéré que le public va être au rendez-vous pour qu'on puisse continuer l'aventure.
Justement, Kev Adams qui vient de nous rejoindre. Alors, ça représente quoi, Kev, pour vous de jouer dans le 50e film de Claude Lelouch?
Demande à Philippe Lelouch. Non, c'est un honneur évidemment énorme, c'est incroyable. Voilà, quelqu'un qui je crois a donné envie à toutes les générations de faire du cinéma, et de pouvoir être dans ce film, pour moi, c'est c'est une chance, c'est un honneur, c'est une expérience que j'ai adorée. J'ai trouvé ça génial d'être sur le plateau avec Claude et avec tous ses partenaires extraordinaires qui sont que des gens que j'adore. Et c'est pas toujours le cas. Franchement, au cinéma, parfois, tu vis une expérience sur le plateau qui est un petit peu étrange, flippante. Bref, c'est le cinéma, quoi. Tu sais jamais trop comment tu vas te retrouver sur le plateau. Et là, ça a été une expérience, franchement, certainement une des plus plaisantes de toute ma jeune carrière pour l'instant.
C'est la consécration, Kev, de jouer dans un film de Claude Lelouch pour vous?
Déjà, oui, clairement, on peut dire ça. Mais je l'ai pas vu comme ça. Moi, je l'ai juste vu comme une chance de pouvoir travailler avec quelqu'un qui a une méthode de travail aussi singulière, aussi particulière et aussi plaisante pour les acteurs. Parce qu'en réalité, tout est fait pour les acteurs. Et je trouve ça dingue. C'est-à-dire que tout est mis au service des acteurs pour pouvoir donner le maximum du meilleur du jus d'orange de pomme de ce qu'on a dans le ventre, quoi. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial. C'est-à-dire que à chaque moment, il est avec nous. Moi, j'avais l'impression qu'il m'avait dirigé toute ma vie. C'est-à-dire qu'en un regard, il savait quand j'étais juste, quand j'étais sincère, ou quand c'était surjoué, ou quand c'était joué. Et c'est dingue, c'est dingue. C'est-à-dire que cet œil-là de metteur en scène, de metteur en vie, comme il aime dire, c'est comme ça. Tu l'as ou tu l'as pas. Et je pense que c'est quelque chose que t'as au fur et à mesure des expériences. Et donc forcément, pour moi, c'était dingue, c'était surprenant. Parfois, au milieu d'une réplique, il te dit là, tu l'entends là. Tu l'entends que non. Et tu te dis bah oui. C'est vrai? Je l'entends que non.
C'est horrible.
Non, mais c'est vrai.
Mais j'ai dit la même chose que toi.
Tu l'entends, tu l'entends. Ben, je l'entends. Et hop, et on y retourne, mais avec une bienveillance folle, avec un amour dingue. Voilà, moi, il m'a reçu dans son film comme on reçoit quelqu'un à dîner dans sa famille pour Noël, quoi. C'est-à-dire vraiment, il y a un truc de, il y a quelque chose de familial, il y a quelque chose de presque d'intime, quoi. Et j'ai trouvé ça, tellement plaisant, je me suis senti tellement bien, tellement à l'aise que j'avais envie de que ce tournage ne s'arrête jamais.
Jouer le fils de Gérard Darmon quand même.
C'est un honneur extraordinaire. Jouer le fils de Gérard Darmon dans un film de Claude Lelouch. Moi, on m'aurait dit ça un jour, j'aurais dit c'est n'importe quoi. Vous êtes en train de vous dérailler complètement tous. Donc non, c'est extraordinaire. Et puis cette scène que j'ai avec Gérard dans le film, elle est bouleversante. J'adore cette scène. Je la trouve très très touchante, quoi. Je suis quelqu'un de très proche de ma famille, moi, dans la vie. Donc c'est une scène qui concerne évidemment la famille et le rapport père-fils et plein de choses, et il y a tellement de choses dans cette scène qui sont représentées justement en une seule scène que je trouve l'intégralité de leur relation, les tumultes, l'amour, l'admiration l'un pour l'autre. Il y a beaucoup de choses dans cette scène. C'est une scène très très rempli de plein de choses, et j'ai trouvé ça génial à jouer, franchement.
Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci Kev, une début d'année chargée avec Maison de Retraite qui sortira aussi, et L'amour c'est mieux que la vie. Claude, on attend la suite évidemment avec impatience, et puis un début d'année chargée aussi avec une grande tournée des Zéniths avec Matt Pokora. Mon cher Philippe, merci à tous les trois, et tout de suite la bande annonce L'amour c'est mieux que la vie, le nouveau film, le 50e film de Claude Lelouch. Merci à vous.
Si tu parles pas de mort, tu parles pas de vie. S'il y a la vie, il y a la mort, c'est tout. Et vice versa.
Et à votre fils, vous lui avez dit? Et à votre père?
J'ai tenu mal à me le dire à moi-même, alors. Ah. Vous êtes venu seul sur ce bateau?
Oui, pourquoi?
Ah, parce qu'en général, quand on vient seul, c'est qu'il y a un problème.
Bah donc vous aussi, vous avez un problème.
Et alors vous vous êtes dit, je vais aller me consoler avec le premier venu, c'est ça?
Bah si le premier venu n'est pas le dernier des cons, pourquoi pas, hein? Vous pensez que l'amour c'est mieux que la vie?
Maintenant, oui.
Et on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de Chute en écoute la télé avec Maud Baker qui nous rejoint. On va parler de la série L'amour presque parfait qui démarre mercredi sur France 2. Alors à tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chute en écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. On écoute la télé, le talk show radio. nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé va s'intéresser à la série L'amour presque parfait. Ça sera mercredi sur France 2. Vous allez pouvoir voir cette nouvelle série romantique qui va y raconter l'histoire de trois filles d'aujourd'hui. Ava, bien rangée avec son mari, ses enfants, l'histoire de Manon. Alors là, plutôt une femme libérée. Puis, la loseuse sentimentale. Mais les choses vont peut-être bien changer. Elle est déjà avec nous en ligne. Quel bonheur de t'avoir avec nous, Maud Baker. Bonjour Maud.
Coucou, merci beaucoup, merci de me recevoir.
Eh bien écoute, ça nous fait très plaisir de t'avoir, parce que franchement, j'ai pu voir les deux premiers épisodes en avant-première. Quel plaisir, quel bonheur de te voir dans un rôle d'une fraîcheur, avec une pétillance, avec une joie de vivre et surtout un entrain communicatif. Franchement, on passe deux heures formidables. Quand on regarde déjà les deux premiers épisodes, ça a fait du bien. J'imagine que toi, à tourner, ça a dû être aussi un plaisir.
Exactement. Je suis ravie de t'entendre dire tout ça. Et oui, ça fait du bien, exactement. Ça fait du bien ce genre de série. Ça fait du bien ce genre de rôle. Et exactement. Et en plus, par rapport à voilà tout ce qu'on vit en ce moment et cette, dans cette période, on a besoin de ce genre de comédie romantique. On a besoin de rire, de rêver. On a besoin de croire au grand amour, d'aller à la quête de l'amour. Et ça fait tellement de bien, oui, de jouer ce genre de personnage. Et on s'est régalé à faire ça avec une réalisatrice extraordinaire qui nous a extrêmement bien dirigé, Pascale Pouzadou, et qui aide tellement son univers, toute cette folie, tout cet amour, toutes ces femmes, tous ces sentiments. Donc c'était, oui, un bonheur à pour nous.
Et dis donc, t'as enchaîné les chorégraphies, hein. Vous allez voir ça dans les deux premiers épisodes.
Oui.
On en dit pas plus, mais dis donc, tu danses, hein. T'es prête pour danser,
oui,
avec les stars.
C'est ça. Non, je ne veux pas, mais oui, on s'est régalé à faire ça. Avec François Villepin-Tigou, on a vraiment une vraie scène de danse. Et c'était génial. Bah, c'est un rêve de faire ça, de pouvoir faire de la comédie romantique, d'avoir une scène de comédie musicale, de chanter en dansant. C'était génial. Alors, on a bien répété avant, hein, faut pas croire. On a pas mal répété cette scène, et puis ça a été plusieurs jours sur la péniche, sur les quais. C'était idyllique comme condition de tournage. On a beaucoup rigolé, parce que tous les deux, on n'est pas des danseurs professionnels. Donc, c'était très, très drôle. On a beaucoup rigolé à faire ça.
Eh ben écoute, en tout cas, ça fait la blague. On y croit vraiment à fond. On est avec vous là-dessus. Alors, tu y incarnes Julie, on va dire, et Jules pour les intimes. 36 ans, largué, sans enfant, au chômage. Tu coches toutes les cases de la parfaite loseuse sentimentale. Mais un coup de téléphone va tout changer, puisque au bout du fil, il va y avoir Max qui va te faire une sublime demande en mariage. Et en fait, t'es sur le retour du mariage de ta sœur. Donc évidemment, tu vas être complètement euphorique jusqu'au moment où tu vas t'apercevoir que sur le fauteuil du siège de la voiture, ce n'est pas ton téléphone qui a sonné, et la déclaration d'amour ne s'adressait pas à toi mais à quelqu'un d'autre. Et là, tu vas décider de prendre le taureau par les cornes pour te dire: c'est mon moment, c'est maintenant. C'est bien résumé.
Exactement ça, c'est très bien résumé. Et Jules va décider, avec l'aide de ses copines, de partir à la conquête de cet homme, parce qu'elle va se dire: j'ai toujours rêvé d'avoir une déclaration d'amour comme ça. C'est le prince charmant, comme elle est très romantique, très amoureuse, elle dit: voilà, c'est ainsi, c'est pour moi, c'est moi, je le mérite. Elle ne mérite pas cette autre-ci, donc je le mérite. Donc c'est quand même une vraie manigance, hein, c'est un vrai truc de manipulation quand même, et de tout faire pour conquérir cet homme et d'aller au rendez-vous, et de tout faire pour que ça soit l'homme de sa vie, évidemment avec moult péripéties.
Et puis alors, et franchement, c'est une série de beaux gosses, hein, quand même, hein. François Vicentelli, Tom Leb, franchement, vous êtes super bien entourés, les trois filles, hein.
On est entouré de beaux gosses, de belles gosses. Ils sont tous en plus des excellents comédiens et en plus des amours dans la vraie vie. Donc, c'est tous des amis, ceux qui l'étaient déjà d'avant et ceux qui le sont devenus. Donc, on était très, très bien entourés, en effet.
On va parler de ton trio avec Nadia Rose et Isabelle Vitari. Vous avez dû bien rigoler quand même toutes les trois. Est-ce qu'il y a eu des moments de fou rire sur le tournage un peu incontrôlable, toutes les trois?
Mais il y a eu tellement de moments de fou rire sur ce tournage. Et enfin, aussi avec les garçons et tout, il y a des moments où on ne pouvait même plus tourner. Pascal, la réalisatrice, riait tellement aussi. Une fois, elle a même quitté le plateau, tellement on riait. En fait, on est tellement dans une ambiance, dans une humeur. Et puis alors, en plus, Isabelle Itari et Nadia Rose, elles sont toutes les deux très fortes dans l'humour. Elles sont toutes les deux, elles font du one man. Du one woman, pardon. Elles ont leur seule en scène. Isabelle Itari, en plus, la joue en ce moment au Palais des Glaces. Et donc, elles sont toutes les deux, vraiment, elles ont un sens de l'humour, de la répartie, du rythme. Et c'était vraiment, j'étais au spectacle. Moi, j'étais vraiment Jules au milieu d'elles deux, en train de les regarder, de balancer des vannes, et ça. Et c'est celle qui va rajouter le meilleur truc, et ça. Donc c'est vraiment, mais tellement drôle dans la vie, et en plus sur le tournage aussi. Donc moi, j'étais au spectacle avec toutes ces blagues et toutes ces vannes.
Quelle a été ta scène la plus drôle à tourner? Est-ce qu'il y en a une qui ressort là, où tu te dis: dans 10 ans, j'y penserai encore, à celle-ci?
La plus drôle, comme la comédie musicale, c'était vraiment marquant à faire, parce que ça a duré plusieurs jours et puis on avait répété avant. C'était quelque chose de différent, voilà, de danser comme ça sur toute une séquence en chantant. Ça, c'était assez marquant parce qu'on a vraiment beaucoup ri à le faire, mais c'est un truc, voilà, un petit peu à part. Et puis c'est le rêve de Jules, c'est une petite bulle de fantaisie dans tout ça, et c'est un petit peu son univers.
Alors vous verrez que Tom Leb cache un petit secret aussi, hein, vous allez le découvrir au fur et à mesure, parce qu'on va pas tout dévoiler. Le but, c'est que vous regardiez évidemment mercredi soir sur France 2. Alors on le disait, un très beau casting, une belle histoire, il y a 6 épisodes, moi j'en ai vu que 2, Maud. Mais déjà la première question qui m'est venue tout de suite, même en n'ayant pas vu encore les 4 derniers, est-ce que c'est bouclé ou est-ce qu'on peut espérer une saison 2 si le succès est au rendez-vous?
Ah, bah alors oui, alors évidemment qu'il y a une fin, à la fin du série, il y a quand même un dénouement et une fin, mais évidemment que ce sera que en fonction des audiences. Si jamais la chaîne envisage une suite, ça sera en fonction, voilà, si cette série rencontre son public mercredi soir, et si le public est au rendez-vous, peut-être, je ne sais pas du tout, voilà, peut-être qu'ils envisageront peut-être une suite, mais en tout cas, oui, ça dépendra évidemment des audiences.
Donc il y a une fin, oui, mais ouverte, on est bien d'accord, oui.
Ouais. Bah, on sait jamais, hein. On sait combien de fois on a vu des séries qui marchaient, voilà. Mais encore une fois, voilà, c'est le public qui décide, hein. Et voilà, si le public est au rendez-vous, c'est ça qui fait toujours la différence.
Et bah, tous sur France 2, mercredi soir à 21h10, juste après un si grand soleil, hein. On va revenir aussi, t'es en plein tournage en ce moment, c'est pour ça, merci encore une fois de nous avoir accordé ces quelques minutes, parce que je sais que t'es en plein de tournage sur l'affaire d'Aval en ce moment, et c'est lourd à porter, évidemment, et tu dois faire la promo pour un truc super joyeux. Donc, comment ça se passe ton tournage en ce moment, Maud?
Mais très bien, ça se passe très bien. Je suis très bien entourée aussi avec des merveilleux comédiens. Mais oui, c'est une chance aussi, de passer de l'un à l'autre et de pouvoir faire des sujets dramatiques et où aussi c'est nécessaire d'en parler. Voilà, c'est très très important pour faire avancer les choses aussi. Et des comédies romantiques dont les gens ont aussi besoin. Et voilà, j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire les deux, de pouvoir passer d'une ville à l'autre, d'un tournage à l'autre. Et ce début d'année commence très intensivement, mais très 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 bien.
Et tu y retrouves Liam en plus. Liam Batty.
Exactement.
Qui jouait Rémi dans Demain nous appartient.
Exactement.
Bon, en tout cas, on te souhaite une belle fin de tournage et puis on te retrouve évidemment dans Demain nous appartient tous les soirs sur TF1 à 19h15. Tu trouves encore le temps de dormir, ça va?
Ça va, ça va. Je me couche tôt quand je ne suis pas trop tard les tournages, ça va. Après, dans les trains, c'est pas moi qui conduis le train, alors je suis posée, j'ai le temps de bosser mes têtes, ça va.
Bon, en tout cas, la bonne nouvelle pour nous de ce début d'année 2022, c'est que t'as retrouvé ton capitaine Saïd quand même. On a eu peur, hein.
Ah bah oui, aussi, pour les fêtes, ils ont fait des belles retrouvailles, exactement. On n'est jamais à l'abri avec les auteurs. Ils nous réservent beaucoup de surprises à chaque fois, on sait jamais comment ça va se passer. Mais bon, en tout cas, oui. Ce début d'année commence plutôt de manière plutôt romantique et positive. Donc, tout porte à croire que ça va continuer ainsi.
Bon, il reste des belles intrigues à venir pour Anna Delcourt, que tu as tournées, qui vont arriver là bientôt, ou est-ce que tu vas reprendre le tournage prochainement?
C'est un peu moins intense. Ça a été très intense là quand je l'ai repris en septembre. Et là, c'est plus des petites choses plus romantiques, légères. On est plus dans... Voilà, là, on n'est pas dans l'hôpital, la prison. On sort un petit peu de tout ça et c'est un peu plus léger et un peu plus drôle. On est un peu plus dans la comédie en ce moment.
Eh ben, ça fait du bien, en tout cas. Allez, Demain nous appartient, c'est du lundi au vendredi, 19h15, mercredi soir, 21h10, L'amour presque parfait, avec Maud Becker. Voilà, je te remercie, Maud, d'avoir été avec nous, encore une fois, dans ce planning hyper chargé. On t'embrasse très fort.
Merci beaucoup, à très très vite.
Et on te souhaite une très belle année 2022, qui soit pleine de succès et que tu sois souvent dans notre émission comme ça.
Ah oui, à vous aussi, belle année, très très belle année à tous.
À avec très vite.
Avec plein de belles choses, on espère, et plein d'amour et de rêves et de rire.
Exactement.
Pour cette nouvelle année,
il en faut. La bande annonce tout de suite de L'amour presque parfait, c'est maintenant.
On se mate une comédie romantique?
Carrément. Jurassic Park.
Le destin a parfois besoin d'un bon coup de pied aux fesses.
C'est beau l'amour.
Au début, quoi.
Tu crois au prince charmant depuis que tu portes des soutiens-gorge, Jules? Je vais dire quelque chose, il n'existe pas. Vous allez rencontrer une belle inconnue.
Ça va?
T'es parfaite.
Chut, on écoute la télé, spécial festival.
Et on va terminer cette émission avec la 25e édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez qui s'ouvre ce soir à l'Alpe d'Huez où nous sommes pour vous avec un jury d'exception présidé par Michel Larocque qui est accompagné de Malik Bentala, Joséphine Japy, Ruben Alves et Mathilde Seigné qu'on pourra voir notamment cette semaine dans Une si longue nuit sur TF1, un festival d'exception, on vous le disait, qui fête cette année sa 25e édition avec plein de longs métrages en compétition. On pourra y voir notamment le nouveau film de Jérôme Commandeur, Irréductible. On pourra y voir également le film de Nadège Loiseau, Trois fois rien. Ou encore le nouveau film d'Audrey Dana, Homme au bord de la crise de nerfs. On y verra également le nouveau film de Frédéric Kering, La classe internationale. Encore la suite aussi, La revanche des crevettes pailletées, la suite des crevettes pailletées de Cédric Le Gallo et Maxime Govard. Le film de François Usan, Sorry pour la photo, également sera proposé ici en compétition, ainsi que le nouveau film de Louis-Julien Petit après Discount et Les Invisibles. La Brigade fait son arrivée et nous aurons également le plaisir de voir en avant-première le film Maison de retraite, le nouveau film de Thomas Gilou, ainsi que le nouveau film d'Olivier Ducret et Wilfried Méhance, Jumeaux, mais pas trop. Le film d'ouverture ce soir à l'Alpe d'Huez, c'est Super-Héros malgré lui, le nouveau film de Philippe Lachaud avec toute la bande à Fifi, bien sûr, Tarek Boudali, Elodie Fontan, on y retrouve Julien Arruti, toute la bande est réunie dans ce tout nouveau film à mourir de rire que moi j'ai pu voir déjà il y a quelques semaines. En avant-première, il y aura la séance de la présidente également cette semaine avec son film, son nouveau film, Michel Larocque présentera alors On danse. Séance spéciale également avec Franck Dubosc pour son nouveau film Rumba la vie, avec la présence de Franck Dubosc mais également de Luna Espinosa découverte dans Les Bracelets Rouges. La séance spéciale avec le médecin imaginaire d'Ahmed Hamidi également, et les séances spéciales pour le nouveau film de Philippe Guillard, J'adore ce que vous faites. Un festival que l'on va vous faire suivre tout au long de la semaine sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook Chut on écoute la télé, sur notre site internet également onécoutelatélé.com où vous pourrez également y trouver quelques infos. Vous pouvez bien sûr aussi vous rendre sur le site du Festival de l'Alpe d'Huez, c'est festival-alpedehuez.com pour y découvrir tout le programme et découvrir ainsi aussi de nombreux lives et de nombreux directs qu'on va vous proposer donc nous tout au long de la semaine sur nos réseaux. En tout cas, la 25e édition du Festival de l'Alpe d'Huez s'ouvre ce soir depuis l'Alpe et c'est pour notre plus grand plaisir bien évidemment qu'on y est pour vous tout au long de cette semaine.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, page spéciale évidemment, Festival de l'Alpe d'Huez avec les réactions des lauréats et de nombreux invités. Page spéciale également pour te retrouver la nouvelle fiction d'M6 qui sera diffusée le 25 janvier prochain. Laetitia Millot, Odile McDonald et Isabelle Sébastien seront nos invités exceptionnels pour en parler. Nous recevrons également à l'occasion de la sortie du film Les Promesses, Thomas Kruithof, le réalisateur. Bref, vous le voyez, on va encore pas s'ennuyer. Allez, n'oubliez pas, j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine avec La Quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, 12h07 et 16h07 sur Attitude. Retrouvez également cette émission en podcast dès 20h ce soir sur notre site internet onécoutelatélé.com. Elle sera également rediffusée demain soir à 19h. Et pour rester connecté avec nous, plusieurs solutions, notre application pour iPhone et Android, Chut, on écoute la télé, nos pages Facebook et Instagram, bien sûr. Et je vous retrouve aussi lundi prochain dès 13h. Pour la grande hebdo de Chute, on écoute la télé. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Attitude. Et je vous dis à demain pour La Quotidienne.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Chute, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé avec Vue d'ici, volet battant, coulissant ou persienne innovant, fabriqué en Charente-Maritime. Vue d'ici, le seul et unique volet en composite monobloc à isolation ultra performante et au veinage bois issu d'empreintes naturelles. Vue d'ici, le meilleur volet à tout point de vue.